au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous voici arrivés à la lettre à l'église de Philadelphie, qui est l'exact contraire de la lettre précédente à l'église de Sardes. Vous vous rappelez que la lettre à l'église de Sardes accusait l'évêque et les chrétiens, donc de Sardes, de chercher la gloire du monde. C'est pourquoi le Christ avait accusé cet évêque et tous ceux qui lui ressemblent en lui disant « Tu crois être riche, mais tu n'as rien ». Nous avons vu que cela est particulièrement vrai des catholiques libéraux et que ce reproche est particulièrement d'actualité avec le Concile Vatican II, avec tous les libéraux catholiques, jusque et y compris les derniers en date qui cherchent à se faire bien voir de l'Église moderne et des modernistes tout en prétendant demeurer traditionnalistes. La lettre que nous lisons aujourd'hui à l'église de Philadelphie traite exactement l'inverse, à savoir des chrétiens qui ont peu de moyens, dit notre Seigneur. C'est-à-dire à la fois des chrétiens qui ont peu de moyens en eux-mêmes, peu de moyens humains, voire, puisque certaines traductions disent peu de vertu, c'est-à-dire non pas peu de vertu au sens strict, mais une vertu de débutant, une vertu de commençant. Cela recouvre également ceux qui ont des moyens, mais qui se privent de leurs moyens, qui se privent des moyens humains, pour ne s'appuyer que sur les moyens divins. C'est très important cela, il y a une pauvreté spirituelle, qui est la vraie et la plus importante de toutes les pauvretés, y compris dans l'apostolat, y compris dans l'éducation, y compris dans toute œuvre divine, qui consiste à se priver volontairement des atouts, des moyens humains, pour ne choisir que les moyens divins. C'est exactement ce que notre Seigneur a fait, puisqu'on le voit par exemple dans la crèche à Noël. Il n'y a rien de ce qui pourrait humainement favoriser sa mission. Ni radio, ni télévision, ni grand de ce monde, ni fanfare, etc. Or le Christ, au début de ce texte, dit à Saint Jean, voici ce que dit le Saint, le véridique, c'est-à-dire Jésus-Christ qui a toute science et toute sagesse. Celui qui a la clé de David qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. De quoi s'agit-il? Il s'agit des mystères de Dieu, de l'intelligence des mystères de Dieu. Il s'agit là du don d'intelligence, don du Saint-Esprit, qui fait pénétrer dans les mystères de Dieu. Eh bien, Dieu ouvre les mystères, il donne la clé des mystères, à ceux qui sont dépourvus de moyens, mais qui cherchent à plaire à Dieu. Tandis qu'il ferme, et c'est terrible cela, il ferme la connaissance du mystère à ceux qui cherchent à plaire au monde, qui s'appuient sur eux-mêmes, bref, la première catégorie dont nous avons parlé, ceux de la lettre précédente, les catholiques libéraux en tout premier. Car ne nous y trompons pas, mes bien chers frères, le catholicisme libéral ou le libéralisme dans le catholicisme, enfin, bref, de vouloir avoir un pied dans chacun des deux camps, de vouloir se faire bien voir du monde tout en cherchant à se faire bien voir de Dieu, parce que c'est cela, le premier châtiment, c'est l'aveuglement. Le bon Dieu n'attend pas l'au-delà pour châtier, comme il n'attend pas l'au-delà pour récompenser. Les libéraux sont châtiés dès ici-bas par l'aveuglement. Et c'est ce qui fait, mes bien chers frères, que vous vous posez si souvent la question « Comment se fait-il que nos anciens amis n'aient pas compris ? Comment se fait-il s'ils ont compris qu'ils ne suivent pas ? Comment se fait-il que eux qui furent disciples de Monseigneur Lefebvre ne sont plus fidèles à Monseigneur Lefebvre, ne sont plus des phares de la foi dans les ténèbres du monde moderne ? C'est que le Christ, plus ou moins bien entendu, parce que le Christ module sa punition, mais le Christ ferme le sens et l'intelligence des mystères, il aveugle. Comme il avait aveuglé Pharaon, l'Écriture sainte dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon ». Et comment se fait-il que des petits, des humbles, des convertis, qui ont cherché la vérité, qui ont cherché Dieu, la trouvent finalement, parce que bien qu'ils aient eu peu de moyens, ils ont cherché à être fidèles. C'est ça la grande, le grand critère, voyez, c'est ce que dit notre Seigneur dans cette lettre. Voici que je t'ai donné devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de moyens. Je te donne la porte ouverte parce que tu as peu de moyens, c'est-à-dire parce que tu es humble, parce que tu cherches Dieu, tu me cherches moi, Dieu, tu ne te cherches pas toi, tu ne cherches pas le monde, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu n'as pas renié mon nom. Le grand critère, c'est de chercher Dieu et de ne pas chercher le monde. Le grand critère, c'est de chercher Dieu et même de fuir, de mépriser le monde. Ou, comme le dit notre Seigneur dans cette lettre, le grand critère, c'est de chercher Dieu et de ne pas renier son nom devant le monde, car nous avons été créés pour cela, honorer, louer, servir Dieu. Et un homme se serait-il contenté dans toute sa vie de ne jamais renier Dieu face au monde, il mériterait une belle place au ciel. Regardez comme Monseigneur Lefebvre, qui certainement était riche de moyens, mais de moyens divins, n'a cependant mis sa confiance qu'en Dieu. Il aimait à nous répéter qu'il n'avait jamais précédé la Providence, c'est-à-dire qu'il avait toujours suivi Dieu et non pas suivi son propre jugement, son propre mouvement. Et voyez comme il a eu une compréhension du mystère divin, une compréhension telle, une pénétration telle, qu'il a éclairé, on peut le dire, le monde entier, il nous a éclairé, nous, il a éclairé le monde entier, et aujourd'hui, où avec le pauvre Bergoglio, les catholiques se posent de plus en plus de questions, on a de plus en plus souvent des jeunes prêtres, des séminaristes, ou tout simplement des fidèles, qui nous disent « Ah, mais je connais Monseigneur Lefebvre !» et qui se laissent éclairer par le peu qu'ils trouvent de Monseigneur Lefebvre, par exemple sur Internet, je dis le peu, parce que la fraternité Saint-Pidis, hélas, a mis l'embargo sur 90% des conférences de Monseigneur Lefebvre. Il est quasiment impossible de trouver les conférences aux séminaristes, qui sont pourtant les plus importantes. Si vous les voulez, demandez-les-moi, je sais comment vous les fournir. Bien, la conséquence est très surprenante. Voici que je te donnerai quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ils mentent. Mais voici que je ferai qu'ils viendront à toi. Ils adoreront devant tes pieds. Ils sauront que je t'ai aimé. Alors une remarque tout d'abord pour commencer, mes bien chers frères. Remarquez le langage de notre Seigneur qui dit qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, ils mentent. En effet, ceux qui se disent juifs aujourd'hui ne sont pas de la race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par le sang, parce que depuis la dispersion après l'an 70, leur généalogie a été complètement perdue. parce qu'ils ne sont pas non plus fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par la foi, ni par les œuvres. Eh bien, ceux-là qui sont ennemis du Christ, Yves Marceaudon, par exemple, dans son livre « Un franc-maçon de tradition », dit « Que mes amis chrétiens me pardonnent, mais le Christ, pour nous, c'est comme pour eux le diable. » C'est clair. Voilà pourquoi notre Seigneur dit qu'il s'agit de la synagogue de Satan. Eh bien, ceux qui se disent juifs n'iront pas aux pieds des grands pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Ils iront aux pieds des humbles, aux pieds de ceux qui ont peu de moyens, eux qui pensaient avoir énormément de moyens et qui effectivement avaient à leur disposition tous les moyens du monde. Ce n'est pas à ceux qui ont l'esprit du monde et les moyens du monde qu'ils se rendront pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ, c'est à ceux qui ont l'esprit de Dieu. Il est intéressant, par exemple, de lire la vie, le récit de la conversion de Véronique Lévy, la sœur de Bernard-Henri Lévy. Notre Seigneur poursuit dans cette lettre en disant qu'il sera avec eux, les humbles, l'église de Philadelphie, il sera avec eux dans les tentations. Alors de quelle persécution s'agit-il? On a pensé que c'était une des premières persécutions au début de l'histoire de l'église, Néron par exemple, ou bien les grandes persécutions des premiers siècles. En réalité, l'église est toujours dans la persécution, et cette persécution est toujours une tentation. Les pères de l'Église nous disent que notre Seigneur ne désigne là aucune persécution en particulier, mais l'état habituel de l'Église qui est persécutée comme lui-même a été persécuté pendant ses 3 ans de vie publique avec le sommet de la persécution, sa mort sur la croix, sa crucifixion. Cette persécution qui doit venir sur tout l'univers, c'est l'état habituel de persécution de l'Église. Évidemment, ce sera encore plus la persécution des derniers temps, car celle-ci sera encore plus sur tout l'univers. En réalité, toutes les persécutions sont sur tout l'univers, seulement celle des derniers temps sera plus violente. Je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir, dit notre Seigneur. Tiens ce que tu as, afin que personne ne reçoive ta couronne. Nous avons vu comment les chrétiens infidèles perdent leur couronne. Alors, supplions la Sainte Vierge de nous demeurer fidèles, de nous garder fidèles pour que nous gardions notre couronne. Et la dernière promesse, la dernière récompense, celui qui vaincra, qui aura vaincu, dans les épreuves, dans les tentations, grâce à l'aide de Jésus qui est avec lui, celui qui aura vaincu, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Il ne sortira plus jamais dehors parce que il ne sera plus jamais rattrapé par le monde, il sera toujours avec moi, dans l'intimité de son cœur, dans l'intimité de la Sainte Trinité, dans l'intimité de la communion avec Jésus-Christ, et il sera une colonne. Mais bien, chers frères, voyez comme Mgr Lefebvre a été une colonne dans l'Église. Voyez comme saint François d'Assise a été une colonne dans l'Église. Eh bien, vous aussi, vous serez des colonnes. Vous serez des colonnes pour votre famille. Vous serez des colonnes pour vos amis. Vous serez des colonnes bien au-delà dans la société. Je vous recommande une nouvelle fois la lecture de l'histoire secrète de la congrégation de Lyon. C'est un catholique humble, plein de foi, fidèle, qui veillait à ne jamais renier le nom de Dieu. Ces catholiques du diocèse de Lyon ont été des colonnes pour tout le diocèse, au point qu'ils ont ramené à la fidélité à l'Église certains prêtres qui étaient tombés dans le schisme, et puis surtout, ils ont aidé, maintenu les bons chrétiens, ils ont maintenu l'Église pendant toute la Révolution, et ensuite, après la Révolution, dans cette période terrible de libéralisme, tout cet esprit un peu défaitiste, il faut bien le dire, qui est à la suite du Concordat, ils ont été de véritables colonnes. Mais bien, chers frères, vous serez également des colonnes pour les prêtres. Peut-être pour certains prêtres qui s'écroulent, il y en a, hélas, aujourd'hui, mais vous serez des colonnes pour les prêtres qui eux-mêmes sont des colonnes. Vous serez les auxiliaires des prêtres qui sont des colonnes. Pas les auxiliaires en prenant la place des prêtres et en faisant un apostolat sacerdotal, non, mais en prolongeant l'apostolat des prêtres, en suppléant à l'apostolat des prêtres, en tenant des chrétientés là où il n'y a pas de prêtres, en organisant des chaînes de prière, des chaînes de rosaire, en enseignant le catéchisme, en prêchant. Il y a 2 heures tout juste, un jeune m'a téléphoné. Un de ses amis est mort, jeune lui-même, atteint d'une maladie qui ne lui permettait pas de vivre longtemps, et hélas, ce pauvre garçon s'est fait incinérer. La famille a demandé à ce jeune qui me téléphonait, qui est un converti récent, baptisé récemment, elle lui a demandé de faire une allocution avant que le cercueil disparaisse dans le four. Et ce jeune a fait tout naturellement une prédication, une sorte de sermon sur la foi. Et à tous ceux qui regrettaient de ne pas avoir été assez proches de ce jeune disparu très tôt, tous ceux qui regrettaient de n'avoir pas assez cultivé l'amitié avec lui, il leur a dit « Eh bien, maintenant vous pouvez prier pour lui, alors cela ne sert à rien de vous lamenter, mais faites ce que vous pouvez faire maintenant et il va distribuer des livres bleus, des livres de prière, des chapelets, des médailles miraculeuses. » Voilà un jeune converti qui a peu de moyens, mais qui s'appuie sur Dieu, voici qu'il commence à être une colonne pour les siens et pour ses autres amis. Alors, vous ne vous étonnez pas, mes bien chers frères, que notre Seigneur conclut sa lettre en disant « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la cité de Dieu, la cité de mon Dieu, c'est le ciel, de la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel. » C'est-à-dire que j'écrirai ce nom dès ici-bas, puisque la Jérusalem descend du ciel. Un nom nouveau, qui est un nom que le monde ne connaît pas, qui est le nom de Dieu. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et que celui qui veut demeurer fidèle demande à la Très Sainte Vierge de lui donner cette grâce de la fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.